Daniel. Lucie s'est mise à pousser des hurlements peu après minuit. En entendant ce cri de désespoir strident, nous avons déboulé tous les quatre dans le couloir et commis l'erreur de nous précipiter en bloc dans sa chambre, provoquant chez elle un nouveau paroxysme de terreur à la vue de tous ces adultes. Elle s'est attaquée à la fenêtre, qu'elle a martelée de coups de poing. Comme le verre trempé ne cédait pas, elle s'est brusquement retournée et jetée contre le mur voisin. Sa tête a rebondi, elle a poussé un nouveau cri avant de traverser la chambre dans une course démente pour aller s'écraser contre le mur d'en face. Elle portait toujours la marinière trop grande qui battait autour de ses genoux osseux comme une gigantesque cape verte. J'ai levé une main pour que personne ne bouge. Officiellement, je n'étais même pas de garde. J'avais fini mon service depuis des heures, mais je n'avais pas encore réussi à rentrer chez moi. J'avais fait le point avec Karen, j'étais passée voir Greg, j'avais complété des dossiers, j'avais travaillé pendant 36 des dernières 48 heures. Maintenant, j'étais fatiguée, lessivée par l'évasion de Lucie, vidée par la visite des enquêteurs. Après leur départ, j'avais fait la bêtise d'aller voir les informations sur le crime de Dorchester sur Internet. J'avais imaginé Ozzy dans cette grande maison en bardeaux blancs. Patrick, Denise, les grands frères et sœurs d'Ozzy. Et cela m'avait remis la voix de mon père dans la tête. Oh, ma petite Dani, ma jolie, jolie petite Dani. Plus que 2 jours et demi. 60 heures et quelques. Elle fait une dissociation, a murmuré Cécile, une éducatrice, à côté de moi. Elle avait raison. Les yeux sombres de Lucie avaient pris un aspect vitreux et elle se débattait contre des choses qu'elle était seule à voir. Son cauchemar l'avait conduite dans ces régions inhospitalières entre veille et sommeil. Elle réagissait à notre présence, mais sans réelle conscience. Dans ces cas-là, les enfants étaient pratiquement impossibles à réveiller, et cela finissait presque toujours mal. Lucie s'est alors jetée contre un autre mur et a commencé à se taper la tête. « Lorazepam », a dit Ed. C'était un éducateur d'un certain âge, râblé, dégarni. Il aimait cuisiner et cela le rendait très populaire auprès des enfants. « Sans blague », ai-je dit dans ma barbe. « Je peux l'attraper ». Ed était déjà dans les starting blocks, prêt à jeter son poids sur la bataille. Il allait se ruer vers elle, essayer de la prendre dans ses bras. Cette sensation d'enveloppement apaisait certains enfants, contribuait à les calmer. J'ai tout de suite su que Lucie n'était pas de cela. Non, ai-je dit en retenant Ed par le bras. Si tu la touches, elle va péter un câble. Elle a déjà pété un câble. Il faut qu'on lui donne un sédatif avant qu'elle embarque tout le monde avec elle. C'est la nuit, Daniel. Tu sais comment ça se passe. Je savais. Mais attraper de force une enfant aussi traumatisée que Lucie, je ne pouvais pas le digérer. Tout le monde dehors, ai-je ordonné. Dehors. On ne fait rien de bon, là. De nouveau à la fenêtre, Lucie tambourinait en vain sur le verre. Le désespoir de ce geste faisait peine à voir. Comme si elle savait que le verre ne se briserait pas. Comme si elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir, mais qu'elle devait essayer. Combien de temps avait-elle cogné contre la porte du congélateur? Combien d'heures et de jours avait-elle passé dans une position fœtale contrainte, les muscles des bras et des jambes brûlant de crampes? Ces enfants étaient plus résistants que nous, plus courageux que nous. C'était pour cela que nous les aimions tant. Nous avons reculé lentement et nous sommes ressortis en douceur dans le couloir illuminé, où l'effet d'entraînement de la crise de Lucie se manifestait déjà. Les enfants, sortis de leur lit, ouvraient des yeux effarés tandis qu'elle hurlait de plus belle. Jimmy est passé en courant, bras tendu sur le côté. Il réagissait au stress en faisant l'avion. Jorge et Benny le talonnaient. Les enfants verbaux jacassaient à qui mieux mieux, les enfants non-verbaux se recroquevillaient sur eux-mêmes. Amy, la petite suicidaire, se tenait sur le pas de sa porte, l'air de penser que c'était la fin du monde mais qu'elle avait toujours su que ça arriverait. Elle s'est retirée à pas lourds dans l'obscurité de sa chambre, où Cécile n'a pas tardé à la rejoindre. Lucie s'est mise à gémir. Un son aigu, plein d'angoisse, qui montait, retombait et reprenait crescendo. « Faut lui dire stop! Faut lui dire stop !» cria Jimmy qui vrombissait dans le couloir, les bras tendus, son peignoir battant autour de lui. Les gémissements de Lucie ont redoublé. Stop, stop, stop! Ont à leur tour psalmodié Benny et Jorge. Séance de minuit, a tonné Ed par-dessus le vacarme grandissant. Salle vidéo, tournée générale de pop-corn. Il a commencé à éloigner des enfants hagards ou paniqués de la chambre de Lucie pour les guider vers la salle commune. Je l'ai imité, rassemblant autant d'enfants que possible tout en me dirigeant vers la pharmacie du service. J'essayais de faire comme si je marchais simplement d'un bon pas, alors qu'en réalité j'aurais voulu courir. Les gémissements continuaient, une longue et déchirante montée dans les aigus qui faisait pâlir les adultes sous les sourires rassurants que nous affichions. Alors j'ai revu mon père, debout sur le pas de ma porte, encadré par un halo de lumière venu du couloir. Oh, ma petite Dani, ma jolie, jolie petite Dani. Les accents de ces derniers mots correspondaient exactement à la plainte de Lucie. Un chant pour les mourants. Je voulais que Lucie se taise. J'avais besoin de me sortir sa voix de la tête. J'ai finalement rejoint la pharmacie et pris le lorazépam. Deux autres enfants sont passés au galop. J'ai attrapé le premier, le deuxième, et je les ai emmenés dans la salle vidéo où les éducateurs prenaient la situation en main. Un film était à l'écran et le son était presque assez fort pour couvrir le tapage du bout du couloir. Les cris de Lucie se sont faits plus désespérés et j'ai foncé chercher le reste du matériel. J'avais le sédatif approprié, mais la partie n'était pas gagnée. Le vrai problème allait être de l'administrer. Nous arrivions à convaincre ou même à soudoyer la plupart des enfants pour qu'ils le prennent, mais on ne pouvait pas communiquer verbalement avec Lucie. Elle était un mystère pour nous. Un mystère qui poussait maintenant des cris tellement stridents que j'en avais mal au crâne. Les fenêtres avaient dû voler en éclats. Le bâtiment aurait dû imploser sous l'intensité d'une telle angoisse. Oh, ma petite Dani, ma jolie, jolie petite Dani. J'ai attrapé trois morceaux de fromage, une radiocassette et j'ai couru au bout du couloir. Je suis entrée droit dans la chambre. Lucie était tellement hors d'elle que j'ai pensé que ça n'avait guère d'importance. Mais elle a dû me repérer du coin de l'œil parce qu'elle s'est immédiatement jetée sur moi, toute griffe dehors, en visant mes yeux. Elle m'est tombée sur l'épaule. J'ai vacillé, surprise, en laissant échapper un petit J'ai eu l'image d'une tignasse brune et d'yeux noirs et désespérés, trop grands dans son visage pâle. Elle a repris son élan. Par réflexe, j'ai levé la radiocassette pour faire barrage. Elle a donné une grande claque dedans, suffisamment fort pour se faire mal. Son bras s'est rétracté, elle a ramené sa main droite sur sa poitrine en gémissant. J'ai appuyé sur « play » et des notes de piano aériennes se sont élevées dans la pièce. La musique adoucit les mœurs. Mais pas Lucie, qui m'a donné des coups de pied dans les tibias. J'ai fait marche arrière pour essayer de mettre de la distance entre nous. Elle me traquait sur la pointe des pieds, sans jamais quitter mon visage du regard. Elle voulait m'arracher les yeux, enfoncer ses doigts dans mes orbites et appuyer. Je le lisais sur son visage. Quelque chose s'était éteint en elle, comme avec un interrupteur. Un lien avec l'humanité qui continuait à se défaire. Elle voulait du sang. Elle en avait besoin. J'ai continué à me déplacer en prenant soin de ne pas aller dans les coins et de garder la porte en ligne de mire. J'étais plus forte. Elle était plus rapide, tourbillon indistinct de marinière verte et de membres blafards, vifs comme l'éclair. Elle m'a redonné un coup de pied, m'atteignant sur le côté du genou. J'ai perdu l'équilibre et le lecteur de cassette est tombé par terre. Elle s'en est emparée et l'a violemment lancé vers la fenêtre. Il a rebondi sur le verre trempé avant de retomber par terre, où George Winston a vaillamment continué à jouer. Lucie n'a pas semblé le remarquer. Je m'étais déjà relevée et je me dirigeais rapidement vers la porte ouverte. Elle a paru lire ma trajectoire et comprendre immédiatement mon intention. D'un bond vers la gauche, elle m'a barré le chemin pour me repousser vers le fond de la chambre. J'ai mis le matelas entre nous, en me disant que ça pourrait être utile, puis j'ai commencé à décrire un mouvement circulaire, toujours en gardant la porte dans un coin de la tête. Lucie a cessé de vouloir m'acculer et s'est jetée sur le matelas. Cette attaque frontale m'a prise au dépourvu. J'avais à peine lâché le matelas qu'elle me donnait un coup de tête dans le ventre. La violence de son assaut nous a entraînés toutes les deux et m'a projetée contre la fenêtre. Lucie était une vraie furie maintenant. Elle donnait des coups de griffe, des coups de genoux. J'ai essayé de lui attraper les mains, de la maîtriser. Elle m'a pris un bras à deux mains et a tiré dessus d'un coup sec. Je me suis brusquement retrouvée projetée vers l'avant et elle a immédiatement sauté sur mon dos en agrippant mes cheveux à pleine poignée. Ensuite, elle a mis sa main autour de ma gorge et serré. Je me suis dirigée en titubant vers le mur le plus proche et j'ai violemment reculé dedans. Elle n'a pas lâché prise. Alors j'ai accompli la manœuvre préférée de Greg. Je me suis penchée en avant et je l'ai fait basculer par-dessus bord. La chute a été rude et a chassé l'air de ses petits poumons. J'ai vu ses yeux s'arrondir, sa bouche former un « oh » inaudible. Elle était neutralisée, mais sans doute pas pour longtemps. Vite, avant qu'elle ne se relève, j'ai enfoncé un comprimé de lorazépam dans le premier morceau de fromage dont j'ai fait une boulette grossière. Je l'ai fait rouler vers elle et je me suis dirigée vers la porte. Ed était là, horrifié. « Mais qu'est-ce que... Chut, elle n'a pas encore fini. » Et de fait, Lucie se relevait déjà tant bien que mal. Elle était moins solide sur ses jambes. Le regard était vide, vitreux. Elle a fait un pas hésitant, un autre. Son orteil a heurté la boulette de fromage et l'a envoyé rouler sur la moquette. Ce mouvement a attiré son attention. Elle s'est immobilisée pour observer. J'ai retenu mon souffle. J'ai pris les deux autres morceaux de fromage et je me suis employée à en faire des boulettes. Pense chat. Voilà ce qui apaise Lucie. Mets-la dans la peau d'un chat. J'ai fait rouler le deuxième morceau de fromage par terre. Je l'ai lancé comme une bille dans son champ de vision. Lucie a suivi la trajectoire de celle-là avant de revenir brusquement à la première. Je voyais son corps changer de posture, adopter d'instinct une attitude plus féline. J'ai lancé le troisième morceau vers ses pieds, et cette fois était la bonne. Elle a sauté dessus, l'a attrapé dans ses mains qui ressemblaient maintenant à des pattes et l'a envoyé en l'air. « Où est lorazépam ?» demandait Ed. « Nom d'un chien, Daniel ! Chut !» Je ne voulais pas qu'il la distrait. J'avais besoin qu'elle reste concentrée sur le fromage. « Joue avec les jolies petites boulettes de fromage. Fais-les rouler et ensuite gobe-les. » Elle ne m'a pas rendu la vie facile. 5 longues minutes, 6, 7, 8. Une des boulettes commençait à se désintégrer. Je retenais mon souffle, m'attendant à ce que le comprimé apparaisse, mais cette boulette-là ne contenait que du fromage. Lucie a fini par s'arrêter, laper les petits bouts de cheddar sur la moquette et aller vers la boulette suivante, puis la suivante. 1, 2, 3. Le fromage était mangé, le comprimé avalé. Enfin, je me détendais, soulagée, et je m'apercevais que je ne tenais plus sur mes jambes et que j'avais les bras en feu. J'avais du sang sur le dos des mains et du sang qui coulait sur les joues. « Tu as... Comment tu... » m'a demandé Ed. C'était dans le fromage, et je murmurais en le tirant en arrière vers le couloir. « Elle a juste besoin de quelques minutes. C'est fini maintenant, elle sera bientôt dans les vapes. »« Bon sang, Daniel, ton visage, ton cou, faut que tu te fasses soigner. » Tu parles d'une chance, on travaille dans un hôpital. Je voulais pas être désagréable avec lui, mais c'était plus fort que moi. J'étais encore à cran, les nerfs ébranlés. J'aurais voulu que Greg soit là. J'aurais voulu... J'avais besoin... Et là, j'ai repensé à George Winston, qui s'escrimait toujours sur le sol de la chambre de Lucie. Et j'ai eu envie de rire, puis de pleurer. Et j'ai su que la coupe était pleine. Je suis allée dans les toilettes pour m'asperger le visage et pour me dire que, en aucun cas, je ne continuerai à entendre mon père chanter dans ma tête. Quand je suis retournée dans la chambre de Lucie un quart d'heure plus tard, elle était roulée en boule dans un coin, un bras tendu au-dessus d'elle. Elle faisait aller et venir sa main en observant l'ombre de ses doigts sur le mur. Ses mouvements étaient indolents, le sédatif était en train de l'engourdir. Elle serait bientôt endormie. Je me suis demandé ce qu'elle verrait en fermant les yeux. Je me suis demandé comment elle trouvait la force de se relever. Je suis rentrée dans sa chambre discrètement, cette fois-ci, en me faisant toute petite. Je me suis arrêtée non loin d'elle et je me suis assise en tailleur. Elle a tourné la tête. Elle avait la mâchoire détendue. Ses joues n'étaient plus rouges de colère. Elle avait l'air de ce qu'elle était. Une petite fille de 9 ans qui avait vécu trop de choses. J'ai eu envie de repousser ses cheveux broussailleux, mais j'ai gardé mes mains le long du corps. Tout va bien maintenant, ai-je murmuré. Sans doute plus pour moi-même que pour elle. Une soirée difficile, mais ça arrive. Elle a penché la tête sur le côté comme si elle écoutait ce que je disais. Puis elle s'est remise à étudier le va-et-vient de ses doigts, tout là-haut au-dessus de sa tête. « Tu es en sécurité ici, » lui ai-je dit. « Nous ne te ferons pas de mal. » Nous demandons juste la même considération. Plus d'attaques, d'accord, Lucie? Ici, on ne frappe pas, on ne mord pas, on ne donne pas de coups de pied, on ne tire pas les cheveux. C'est une des seules choses qu'on te demandera, être gentil avec nous. Nous aussi, on sera gentil avec toi. Méchant monsieur, a-t-elle dit, d'une voix mélodieuse, si douce, si enfantine, qu'il m'a fallu un instant pour comprendre qu'elle avait parlé. Lucie ? Méchant monsieur, a-t-elle répété. Je restais sans voix. Lucie parlait, elle avait des compétences verbales. Ça va, ai-je murmuré. Pas de méchant monsieur, tu es en sécurité ici. Lucie a tourné la tête, elle avait les paupières lourdes. Le Lorazepam m'agissait. Elle m'a pris la main. Ses doigts étaient puissants, sa poigne plus solide que je ne l'aurais pensé avec le sédatif. « Méchant monsieur » a-t-elle répété d'une voix farouche cette fois-ci, pressante, son regard ardent planté dans le mien. « Ça va » ai-je à nouveau tenté. « Non » a-t-elle dit d'un air lugubre. « Non » Elle m'a lâché la main, s'est pelotonnée et endormie. Je suis restée à côté d'elle pour veiller sur sa silhouette pâle et mince. Les méchants monsieur meurent, la vie devient meilleure. Nous ai-je dit, à toutes les deux. Et j'ai frissonné.